bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bienvenue avec Léa Cadeau-Boudali, Marina Rollman, Daniel Morin,
bonjour Albert,
Albert Algon, Jean-Guy Bastureau sera là tout à l'heure et nos invités Alice Taglioni et Vincent Alval.
Bravo,
bonjour.
Bienvenue, ravi de vous accueillir avec ce film, cette comédie romantique d'un nouveau genre, puisque la toile de fond de cette comédie romantique est votre prostitution, cher Vincent Elbaz, ou du moins de votre personnage.
Oui.
Andy.
Oui, bonjour.
Mais bonjour.
C'est une bonne entrée en matière.
Écoute, ça sort aujourd'hui. Dans quel état vous êtes, Alice?
On est content, on est heureux, non?
Plutôt très heureuse de montrer ce film que j'aime beaucoup. Beaucoup.
Vous vous êtes amusée à le faire, parce qu'on dit toujours que les comédies, c'est drôle à voir, mais c'est pas drôle à faire.
Si,
c'est drôle. C'est drôle à faire. Puis il y a 24 personnes qui se sont levées pour aller voir le film Wall ce matin.
Ah oui,
24 personnes.
Je me rends pas compte.
Bah, il y a 24 personnes.
Non, mais ça veut dire quoi?
Qui se sont dit, qui ont mis leur réveil à 7h30 et qui, je sais pas.
Moi, je trouve ça top, moi.
C'est super.
Je suis très énervé avec les.
Me projette dans cette démarche,
non,
moi.
Pas du tout. C'est parce que ça n'a rien à voir. Mais si tu veux, j'étais dans une même tension ce matin à 7h. On mettait en place les ventes des billets de Taratatak pour une œuvre caritative.
Et
c'était à 7h. Mise en vente. Et il y a eu 80 000 connexions d'un coup d'un seul sur Internet.
Et nous, c'est pareil.
Et tout a bugué.
Mais nous, c'est pareil.
Et tout a bugué, sauf que.
25, je sais pas si tu vois. C'est énorme.
25e, on dit tu rentres.
J'essaie bien d'humilier les gens, hein, quand même. Hein.
Non, je voulais juste faire passer un message comme quoi elles seront mises en vente ce soir à 19h. Je suis désolé pour les fans de Taratata.
C'était donc l'auto-promo.
Exactement.
Ah ouais, bah oui.
Exactement. Les gens peuvent aller voir.
Mais 24, c'est vachement bien.
Cette émission, Vincent Elbaz, n'est faite que pour mon image. Je te rappelle, donc t'as intérêt à être bon.
Ah, pour une fois, il dit la vérité.
On va parler donc de Andy, ce pseudonyme choisi par. Si, c'est vous qui le choisissez. Non,
si,
je
si,
demande, c'est pas votre coloc.
Non, c'est toi.
Mon personnage, je fais un site pour gagner un peu d'argent pour s'en sortir, quoi.
Mais les deux ont des situations désespérées dans leur vie, qu'elles soient affectives, qu'elles soient sociales. Ils sont pas en forme et ils vont se retrouver et s'entraider. On va en parler. D'abord, des questions concernant Alice Taglioni et Vincent Elbaz. Petite, Alice aurait aimé changer une chose chez elle. Ne dis rien, Alice. Quoi?
Être moins grande?
Non.
Ses yeux.
Oh, jalouse.
Mais non.
Non.
Ses pieds, chaussettes. Ses
cheveux dégueulasses.
Non.
Son nom.
Son nom.
Son prénom.
Exactement.
Ah oui,
je vais l'accorder.
Ouais, mais en même temps,
Marina,
vous avez dit que vous étiez très contente après de vous appeler Alice, que vous auriez détesté vous appeler.
C'est vrai, je voulais m'appeler Isabelle ou Jennifer.
Exactement.
Jennifer, c'est classe. C'est
vous avez bien fait de pas changer.
C'est vrai. Voilà.
Non, Alice, pourquoi? Parce qu'il y avait des vannes.
Parce qu'il n'y avait pas une Alice.
Les vannes.
Moi, j'avais double
Alice au Pays des Merveilles.
J'avais Alice au Pays des Merveilles et Alice Tartellini ou.
Ah, pour les Taglioni.
Voilà. Donc j'avais double peine. C'est pas grave, mais quand on a 5 ans, ça fait beaucoup.
Ça marche sur le prénom et sur le nom de famille.
Voilà.
C'est ça. Concernant Vincent Elbaz, pour le tournage de la série No Limit, il a voulu faire lui-même toutes les cascades, sauf une que l'on appelle le parcours. C'est quoi?
Parcours du combattant?
Non.
Non, le parcours, c'est d'utiliser le mobilier urbain pour faire des petites pirouettes de Yamakasi.
Exactement. Ouais. Sauter d'un immeuble à l'autre. Oui, je fais toutes les cascades, mais je saute pas d'immeuble.
Non, je voulais, ils m'ont pas laissé faire. Ils ont bien fait.
Ils sont blagués.
Non, mais on est con quand on est acteur, des fois, sur un plateau, c'est comme
un
enfant.
L'immeuble,
on est là, on se dit, il y a toute une équipe à 50 mètres de haut sur un toit, on va pouvoir le. Allez, on essaye. Mais non, en fait. Non, il m'a dit non.
Et vous avez peur de
refuser,
vous avez peur de quoi dans les rôles qu'on vous propose? Parce qu'il y a déjà quelque chose, vous avez dit non, ça c'est pas possible. J'ai pas sauté en parachute.
Non, il m'avait foutu dans la flotte sous l'eau là, dans le port de Marseille. J'avais pas tellement apprécié.
Mais ça c'est plus quoi, pour la température ou pour la pollution?
D'être sous la flotte là, sous l'eau avec un truc. Non, j'aime pas.
Et dans le film de Pierre Salvadori En Liberté, il y a pas mal de cascades aussi.
Oui, mais j'ai pas de problème pour. On vous accroche à un câble et vous sautez de 40 mètres, c'est pas bon à part si
c'est
un peu le vertige.
C'est sécurisé.
Oui, c'est sécurisé.
D'accord.
Non, mais c'est pas voilà.
Et pourquoi ils ont fusé alors?
C'est pas. Non, mais parce que là il y a pas de câble.
Ah bah
c'est
oui.
C'est quand même un peu tendu. Hein. Voilà, un peu limite.
Là il y en avait pas.
Je comprends mieux. Voilà. Dans le film La Double de Francis Weber, Alice Taglioni et Danny Boone ont été très gênés par une scène. Quelle était cette scène?
Nue.
Alors, c'est plus que ça.
Un baiser ?
Non.
L'amour ?
Plus.
Oh bah non, là, c'est... ça devient dégueulasse.
Bah justement, c'était gênant. Pardon ?
L'accouchement, non. Je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait nu ?
Oh, t'as pas une idée.
C'était Danny Bounecki ?
Ah, un striptease, une danse, un striptease, un truc comme ça ? Dami nous.
Attends, la doublure.
T'as pas remarqué, Vincent, mais les questions ne concernent que nos invités.
Oui, pardon, voilà. Pardon.
Après, j'aurais d'autres questions.
Non, moi-même, je saurais même pas vous dire.
Ah, bon,
qu'est-ce qui a pu les gêner ?
Une scène gênante.
Il y avait une scène gênante.
Où on a ri, où on a couru.
Il fallait se passer de la nourriture.
Fallait se déguiser.
Non, c'est une scène dans le lit. C'est une scène dans le lit. C'est censé être une scène.
Mais avec Danny ou avec Gad ?
Avec Danny.
Dans un lit.
Et un animal.
Il était gêné d'être avec Alice, en fait.
Oui.
Dans un lit, ça le gênait.
Non, mais il était gêné de faire ce qu'on lui demandait de faire. Et...
Ah, mais c'est avec Gad.
D'être
quand
sur lui,
mettre
sous
la main sur le sein.
Ah, bon, ok, t'as qu'à donner la
réponse. Je te rassure, j'étais gêné aussi.
Voilà. C'était pas Danny Boone, pardon.
C'était Gad, elle m'allait.
Ah bah voilà.
Bah voilà.
Ça je savais ça.
Ça
je savais
évidemment.
Bien sûr.
Ça m'étonnait que Danny Boone soit gêné. ça m'étonnait.
Et donc
c'était incohérent. Ouais.
Donc c'était non mais c'est pas uniquement la main sur le sein, c'était les ordres donnés par Francis Weber qui étaient malax, vas-y, pétri, malax.
Ah ouais, c'est
malax,
vrai
c'est
en plus.
Ah,
non,
il est fin,
il est fin.
Ah ouais,
c'est très bien. Ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est gênant pour les deux dans ce genre de situation.
Ah bah oui. Oui. Bah oui.
Non mais je pas par contre je m'en rends pas compte.
Touche. Non mais non, oui si non, c'est gênant.
Rien que de l'entendre, moi je suis un peu gêné.
Ouais.
D'accord, OK. On passe à autre chose. Quelle expérience de vie ? Oh, une question sur Vincent Elbaz, il va comprendre le principe. Quelle expérience de vie Vincent Elbaz ?
On a fait une avant-première hier soir, on va y aller doucement. Je suis rentré pompette,
et puis
comme on dit. J'ai raté un phoning ce matin sur LCI à 7h50
et t'étais à 7h30 au hall. OK. Quelle expérience de vie Vincent Elbaz a-t-il connu ?
La famille.
Quelle expérience a-t-il connue quand il était enfant ?
Quelle expérience ?
Ouais,
quelle... Alors, de quel ordre ?
Non, mais c'est pas vous qui répondez.
Il a connu un prêtre.
Il est passé près de la mort.
Pas loin.
La mort, non.
Le scoutisme.
Pas loin.
Une amourette.
Non.
Qu'est-ce que...
non,
un prêtre, pas loin.
L'armée.
Pas,
Il a vu quelqu'un.
Pas loin.
Il a vu une apparition.
Quel genre de vie ?
Pas loin de l'armée.
Non, pas loin de
la pension.
Scout.
La pension.
Pas loin.
Parents diplomates, je sais pas, il a déménagé.
La maison de correction.
Non.
L'internat.
Repose la question.
Ça s'est passé dans le Luberon, une expérience de vie qu'il a connue.
En communauté.
Exactement.
Ah.
Exactement.
Ah bah oui, ah bah bien sûr.
Ça
oui.
C'est le Luberon qui t'a aidé, la vie en communauté. C'est
ça. Donc
c'était pas scout, c'était pas l'armée.
Non.
Vie en communauté. Alors comment vous la décririez ?
C'est marrant parce qu'on m'en parle souvent de ce truc. Mais comment je la décrirais ? Écoutez, j'avais 3 ans, donc je.
Ah oui.
Oui, je me souviens qu'il y avait plein d'animaux et que les adultes partaient au champ travailler armés. C'était étrange.
Ah ouais.
Eh ben, c'était une communauté très défendre. Extrême gauche, très très on va
violent.
Tout péter. Hein, tout.
Ok, d'accord.
Ah ouais.
D'accord. Mais armés, genre des guns,
ils étaient un peu armés. Ouais, armés. Ouais, je sais pas, ils devaient être un peu parano tous là, je sais pas.
Non mais
ouais.
Armes à feu,
armées
à feu. D'accord.
Et c'était tenu par une ancienne du FLN, une psychiatre.
Ah oui, ok.
Et c'était tenu par une femme comme ça. Qui tenait cette communauté d'une main de fer. Et on a passé un mois et demi là-dedans en juillet. C'était un peu des vacances d'été, en fait.
Mais avec tes parents, non ?
Avec mes parents. Et au bout d'un mois et demi, on s'est tirés, quoi.
Ah ouais,
mais,
une secte, quoi.
Mais pourquoi ? Pourquoi aller là-bas, même un mois et demi ?
Parce que je pense qu'à l'époque, dans les années 70, vous savez, il y avait des annonces dans Libération, dans des journaux comme ça qui passaient, où il y avait des gens très sérieux qui montaient des communautés, mais genre avec des agronomes.
Le retour à la terre.
Voyez,
genre une ZAD.
Ouais, c'était très extrême, très politisé, et voilà. Mais ça n'a pas débouché sur du terrorisme, heureusement.
Allez, deux dernières questions rapides. Alice Taglioni est sans doute l'une des comédiennes les plus recherchées pour son jeu, évidemment, pour son talent, mais elle a une particularité, un don.
Le piano, la musique,
sait faire. Alors,
la
ça, c'est
voyance,
vrai, mais c'est pas ça. Non,
ventriloque.
Qu'on utilise dans les films.
Ah, je sens le truc, ouais, d'accord, passionnant.
Qu'on utilise dans les films.
Qu'on utilise dans les films, ouais, et encore plus dans celui-là, Andy.
Se transformer, se métamorphoser, qu'est-ce que dans ce film,
je vois pas trop ce que
elle sait cogner,
faire.
Elle sait mettre des pains, elle sait mettre des coups, elle sait soigner, elle met des super claques,
elle met des claques.
Ah bah ça oui.
Et vous en avez mis dans la bande du drugstore aussi, c'est.
Ah bon ?
Bah oui. Vous avez fait très mal à Mathieu Simonet.
Mmh. Ah bon ?
Putain, tu vois ?
J'ai plus de mémoire.
Je te l'avais dit qu'il faisait mal.
Lui, il a plus de dents. Donc
et vous avez même déclaré dans une interview : j'ai eu beaucoup de plaisir à gifler Edouard Baird.
Ah oui, Edouard, j'avais eu du plaisir à le gifler.
Ça, on peut comprendre.
Vincent, non. Edouard, il méritait un peu.
Et Jean Dujardin aussi, vous l'avez claqué ?
Ah bon ?
Oh, non, mais non. Je me rappelle, mais c'est pas possible. Allez,
c'est pas possible, c'est pas
on
moi.
Prend pour une fille.
Mais là, ce sont de vrais baffes ou pas?
Vincent, j'ai eu aucun plaisir à le gifler.
Dans Cash.
Ah, peut-être.
Non, c'est pas des vrais. Non, il y en a une vraie.
Il y en a une vraie, mais qui n'est pas fait exprès. Qui part toute seule.
Ouais, c'est
ce qu'on dit à chaque fois.
Mais elles sont, c'est des bonnes baffes.
Non, elle met des bonnes claques, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Vincent, la dernière question. À quelle occasion tombe-t-il systématiquement amoureux?
À quelle occasion?
Ouais.
À Noël?
Non.
Mais quand une femme le drague, quand il est ému,
quand on lui résiste,
quand il est sous.
Ouais, voilà.
Non. Il tombe systématiquement amoureux.
Quand il croise une femme?
Oui, mais...
Blonde?
Non.
Chauve?
Une femme à barbe?
Non, une femme sur un
un tournage? Un tournage? Et oui, c'est vrai, oui, non. Vous l'avez dit.
Vous a... j'aime bien. Peu.
Alors, non, oui, allez-y, rappelez-moi tout.
Vous avez dit, à chaque tournage, je tombe amoureux de ma partenaire. Ça ne veut pas dire vouloir se taper sa partenaire ou son partenaire, vous êtes ouvert.
Oui, parce que je suis très... Il n'y a pas de genre. On
partage des choses.
Ça, c'est pas très important.
On partage des choses intimes, profondes.
Mais oui, bien sûr. Bah évidemment.
Ouais. Ce sont des vraies rencontres pour moi.
Évidemment. Bah c'est une évidence, mais ça veut pas dire
ça veut dire qu'il a,
non mais ça ne veut pas dire libido ou sexe ou je sais pas quoi. Ça veut dire que c'est des rencontres qui sont qui
donc c'est de l'amour amical et pas sexuel.
Je me laisse traverser quand même un minimum.
D'accord. Alors justement sur ce tournage, apparemment vous êtes vous êtes bien entendu. Justement, vous raconterez ce film comme une histoire d'amour, comme une comédie romantique avec une toile de fond particulière, ou comme un film presque social?
Non, mais c'est l'histoire d'un mec qui est un peu un ex beau mec, un peu sur le retour, qui finit dans un foyer social parce que il s'est fait virer par sa copine chez laquelle il squattait.
Non, il a passé sa vie
à
squatter.
C'est vrai.
Jamais eu son appartement, mais il a toujours eu des fiancés chez qui il a vécu.
Disons qu'il est resté des années sur un canapé avec une télécommande sur le ventre, un paquet de chips à côté. Il a fini par prendre un peu de poids et puis comme un gros chat d'appartement.
La vie de Daniel Morin au cinéma, c'est formidable.
C'est pas désagréable.
Voilà. Sauf qu'il est allergique au travail, c'est vrai. Il a un problème, c'est qu'il travaille quelques heures, ça lui fait comme une grosse grippe. Voilà.
Il a des allocs.
Il
a des allocs, RSA,
oui,
APL. Il a le minimum. Attention, il a le minimum. Non, c'est quand même difficile.
Il est organisé. Dans sa galère, il est organisé.
Voilà, et il rencontre cette femme sublime qui est Margot, mais qui, elle, est traumatisée parce qu'elle s'est fait frapper par son mec, etc. Elle est maltraitée et elle est difficilement approchable. Elle est un peu allergique au mec.
On peut la comprendre. Et puis comme on parle beaucoup d'ailleurs des violences faites aux femmes, il y a ce numéro que je répète, le 3919, encore une fois, que toutes les femmes qui sont frappées, bousculées, maltraitées, oppressées psychologiquement aussi, il n'y a pas que la violence physique, puissent appeler et surtout pouvoir parler. Voilà, la parenthèse ne sera jamais fermée, mais je voulais en profiter pour le dire.
Non, mais vous avez raison. Et donc il la rencontre et tout ce qui marchait avant sur les copines, les amoureuses, les femmes qu'il rencontrait, ça marche pas du tout sur elle. Donc il essaye tous ces trucs et il lui propose de monter un petit business d'escort boy pour s'en sortir.
Et elle travaille parce que voilà.
Mais oui, c'est vrai.
Parce que Yannick Sabot, brillant comédien également dans ce film que je salue au passage, vous a pris sous son aile protectrice. Il a compris que vous aviez subi des violences et au-delà de vous abriter dans le foyer où vous squattiez, il vous propose aussi de travailler. Il vous a donné ce job-là parce que finalement aussi, ce qu'il explique le personnage de Yannick Sabot, c'est que ça repasse par le travail.
Exactement, c'est ce qu'il va essayer d'expliquer à Thomas, le personnage que joue Vincent. Mais en fait, c'est une rencontre qui va les sauver tous les deux. Lui, ça va quand même le faire grandir un petit peu. Il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul dans sa galère et qu'autour de lui, il y a son colocataire joué par Philippe Curat. Il y a moi, il y a des personnages comme ceux qu'il rencontre qui sont en réelle détresse, en souffrance. Je ne dis pas qu'il n'est pas en souffrance, mais ça va quand même le le bousculer un peu. Et il se dit
pourquoi pas faire escort boy. Dans un premier temps,
argent facile. Mais ça, c'est argent facile.
Il se dit que ça va pas être très compliqué.
Sauf qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout d'un travail. C'est bien ça son problème.
Dès que ça devient un travail, il bloque.
Et ne pas aller au bout.
Il faut reconnaître que sa première cliente. Qui est joué par Manuel.
Non, ça c'est sa deuxième cliente.
Pardon. Bon, enfin, la deuxième cliente. Oui, non, mais à partir du moment où elle a posé l'argent sur la table, elle a droit, quoi. Elle a droit, c'est un objet, quoi. Et lui, il dit non, je veux plus. Il dit non, quoi.
Il veut manger, il veut regarder la télé. Il fait toutes les stratégies d'évitement.
Et donc, c'est vrai qu'il a. Il est très créatif pour pas faire le boulot. Voilà. En fait, c'est ça son talent.
Et comme beaucoup d'acteurs
et d'actrices.
Vas-y, va jusqu'au bout.
Bah, des fois, on peut être très créatif pour pas avoir à faire le truc. Le metteur en scène, il refait la prise.
C'est vrai.
Et dans le film, je me permets de le raconter parce que c'est également dans la bande annonce, vous avez donc l'idée de dire montons une espèce d'arnaque entre guillemets tu seras ma femme et tu viens.
Il lui demande d'intervenir, quoi. Il lui dit si tu pouvais juste au moment où je suis dans la chambre venir.
Elle a pas du tout envie de dire oui.
Faire un scandale.
On se tire avec le fric et on fait ça quelque. C'est pas un film de casse. Hein. C'est pas
elle a pas envie de dire oui siècle, et pourtant Alice.
Mais parce que c'est ça, il va aller la bousculer dans elle est un peu perdue, je sais pas où elle est, mais elle est très cachée, quoi. Ça va la réveiller. En même temps, elle est honnête, elle fait pas ce genre de choses, mais je pense que ça va, Et puis, en plus, elle va y trouver une certaine forme de plaisir, et c'est comme quelque chose d'assez libérateur, parce que finalement, la seule chose qui lui vient à l'idée pour faire cette scène de ménage, alors qu'elle pourrait juste venir le récupérer, c'est de lui mettre une énorme baffe. Mais ça vient, c'est une impulsion, ça n'avait pas été décidé.
Avant ça, elle renoue avec l'apparence et le regard de la société, puisque.
Un petit peu.
Elle se maquille, elle s'habille, elle s'apprête, alors que c'était pas du tout le cas dans le foyer.
Ouais. Non, mais c'est ça. Il faut qu'elle. C'est une sorte de renaissance.
De renaissance, ouais. C'est extrêmement drôle. Ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle Andy. C'est signé Julien Veil qui co-signe avec vous le scénar. C'est-à-dire que vous avez eu l'idée.
Grégory Boutboul aussi. Ouais. Lui a écrit une première version il y a quelques années. Voilà. Et puis ensuite, on a fait connaissance par l'intermédiaire de Philippe Cura, l'acteur qui joue dans le film. Et petit à petit, on s'est tellement bien entendu qu'on a fini par travailler ensemble ce scénario. Voilà.
Par échanger au point de d'écrire.
D'écrire ensemble. Ouais. Oui, c'est vrai.
C'est chic.
Oui. Mais il est drôle parce que je me souviens qu'il s'était pendant l'écriture, il est allé se documenter sur le sujet.
Il
a tenté une expérience.
En se prostituant lui-même.
Finalement, il n'a pas accepté les sous. Il n'a pas pris les sous. Il est revenu en séance d'écriture, il m'a dit c'est blessant quand même. C'est très blessant.
Non, mais c'est intéressant qu'il soit allé jusqu'à le vivre de l'intérieur pour savoir comment.
Non, mais on regardait vécu. Un peu les
jusqu'au
ce
bout,
qui se faisait sur Internet.
Lui, il est allé jusqu'au bout.
Il a tenté un truc à un moment donné.
En tout cas, j'ai vu les mariés avec la dame. C'est une chouette expérience.
À propos d'expérience, tout à l'heure, nous recevrons Pauline Verdusier, qui est journaliste indépendante, qui fait partie du collectif Les Journalopes, qui a mené une enquête justement sur le milieu des escort boys pour une émission de reportage sur France Culture. Le reportage sera diffusé d'ailleurs demain, jeudi 5 septembre. Mais d'abord, voici François.
Salut les amis. Bonjour Nagui. Coucou Alice. Et coucou Vincent. Comme vous le savez, Nagui, à votre demande, je suis là pour ouvrir les oreilles des auditeurs, dénoncer les impostures. Bref, ma mission, c'est révéler des vérités qui dérangent. Et je sais que ça fait peur à certains. Et à certaines. Comme vous, Nagui, j'ai vu Andy. Comme vous, j'ai pas tout compris, mais j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup pleuré. Pas seulement parce que ce film m'a rappelé mon douloureux passé d'escort girl, quand sous le pseudo de Lady Viagra, je faisais le bonheur de veufs inconsolés à l'EHPAD des vieux glands. Et j'en ai reçu des bifles, des gifles.
Non, mais ça va pas.
Sérieusement, si j'ai pleuré, c'est parce qu'en parlant de gifles, j'ai vite décelé les vraies influences du film. Depuis, il était une fois l'Amérique, vous vous souvenez, où un méchant cow-boy chauve se faisait gifler en rafale par Terence Hill, qui le dardait de son regard bleu acier. Je suis pas là pour parler de Terence Hill, même si je le trouve très beau. Depuis ce film, disais-je, jamais au cinéma, on avait vu un comédien se faire gifler, baffer, souffleter, talocher, claquer, caloter comme Vincent Elbaz alias Thomas dans Andy. Même Jean Lefebvre, dans toute sa carrière, il ne s'est pas pris autant de mornifs que Vincent, dans Andy. Mais pourquoi toutes ces baffes? Bien sûr, on va dire que c'est des gifles de cinéma, que c'est la jalousie qui pousse Alice, alias Margot, à gifler Vincent. Mais moi, je m'y connais. Et je peux vous dire, Margot, je l'ai bien observée. Quand elle tape, elle l'a dit, j'ai eu du plaisir. Elle prend son pied. Mazo, la Margot. Et je peux vous dire, Thomas, je l'ai bien observé. Quand il se fait taper, il prend son pied. Andy, quel sado. Oui, ça m'a fait mal, Nagui. Oui. Mais même si ça fait mal, comme vous le dites souvent, Andy, c'est un film qui fait du bien. Oui.
Merci, bonjour,
Nagui, sur France Inter.
C'est vrai, Alice Taglioni, on a l'impression que votre personnage, il...
prend du plaisir.
Non, non, j'allais parler de sa force ou de sa faiblesse.
Mais j'en prends peut-être un peu.
On ne sait pas trop si c'est, si elle est fragile ou au contraire si elle est forte. Elle, quand elle parle dans un premier temps dans le foyer, on sent que c'est un peu la tôlière comme
mais
ça.
Elle est fragile
et
avec.
Et au fur et à mesure, elle s'est.
Elle est fragile avec son bourreau. En fait, il y a vraiment cette emprise psychologique qui est flagrante dans ce film. Parce qu'effectivement, Margot, elle n'est pas fragile. C'est quelqu'un qui sait parler, Nicolas, c'est quelqu'un qui sait se défendre.
C'est Nicolas Baczynski, c'est ça?
Il fait peur.
C'est ça.
C'est ça, ouais. Enfin, non, mais qui est un super comédien qu'on a vu.
Il est super gentil.
Aussi dans Fourmis,
très doux, très gentil.
Il est dans L'Ascension aussi.
C'est ça.
Ouais. Il est top.
Oui, mais il fait peur quand il fait peur.
Même quand il tient que la main, il fait peur.
Moi, il me faisait peur en vrai. Enfin, pendant le tournage, quand je le voyais, quand j'avais dessiné avec
lui. Toi aussi, tu lui faisais peur.
Ah bon? Non, je crois pas.
Il a dit qu'il...
Non. Ah si, peut-être, parce que j'étais pas d'accord avec cette relation-là. Moi, évidemment, ça veut pas dire que j'ai vécu ça, mais pouvoir imaginer que des choses comme ça existent, ça paraît très naïf de le dire, mais voilà, c'est la réalité. Et c'est très, très... très angoissant d'être confronté à ça et de se dire, ah oui, effectivement, il n'y a pas d'issue, en fait, avec cette personne-là. Donc oui, la seule possibilité, bon, maintenant on en parle, a priori on met des choses en place, mais c'est d'aller se réfugier quelque part. Après, Margot, c'est un personnage, elle n'a pas encore d'enfant, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de gens à protéger, mais j'imagine que si en plus il y a des enfants, enfin, c'est, moi, ça m'a vraiment mis dans un état d'angoisse terrible.
Et ce qui est fort, c'est que ce film, justement, a des sujets en toile de fond très concrets, très forts, très actuels, sur la manière dont on peut être totalement rejeté par la société, où on la rejette d'ailleurs, en disant je veux rentrer dans son jeu ou je ne veux pas. D'un côté, les violences faites aux femmes, la dépendance.
La misère affective.
Exactement,
et sexuelle.
Exactement, cette espèce de solitude. Le milieu des escortes, boy ou girl, peu importe, mais enfin, j'admets, on pourra croire, et on en reparlera tout à l'heure avec Pauline, que la prostitution, les gens qui se prostituent le font par plaisir.
C'est pas tourné dans le luxe ou dans des endroits incroyables, non, c'est vraiment.
Donc, tout ça, ce sont que des personnes désespérées qui se retrouvent chacun. Et puis même les clientes, entre guillemets, des escort boys sont aussi au bout du rouleau. Quoi.
C'est mais la force de ce film, c'est d'arriver à faire rire avec ça.
Et voilà, ça reste une comédie romantique en plus. Ouais. Andy sort aujourd'hui au cinéma. Vincent Elbaz et Alice Taglioni sont nos invités. Marina Rollman est là.
Bonjour les amis, nous sommes le 4 septembre,
oui,
ce qui
merci.
Veut dire que donc nos amis riches et sans enfants peuvent encore dépenser sur les plages de la côte adriatique leur argent, vilement gagné en vendant des armes ou de l'art contemporain. Mais nous, citadins, travailleurs, lambda, menons à nouveau une vie hors de l'eau. Sauf pour les gens qui vont à la piscine, ouais. Quel courage, moi ça me fascine les gens qui vont à la piscine, ça vous dégoûte pas? Vous êtes conscient qu'aller à la piscine, c'est prendre un bain avec des inconnus. Même moi, avec des gens que je fréquente depuis des années, la bise, oui, le bain, non, quoi, ça me dit. Et là, c'est même pire qu'un bain, tu mets la tête sous l'eau, tu vas en avoir dans le nez, vous êtes sérieux? Vous êtes ok avec l'idée d'aspirer du bouillon de gens? Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Grand bien, vous en fasse, mais pour moi, c'est comme les gens qui vont en chaussettes aux toilettes dans l'avion. J'imagine qu'ils doivent avoir des défenses immunitaires de dingue, mais moi, franchement, je préfère mourir d'un refroidissement. Ça me dégoûte, la piscine. Mais donc, voilà. C'est pas moi, mais il y a des Français qui vont à la piscine actuellement. Il y a des Françaises qui vont à la piscine. Il y a des Françaises de toute forme, avec tous les corps, toutes les tenues qui vont à la piscine. Or, dimanche dernier, une piscine du 11e arrondissement a fermé ses portes parce que parmi les baigneuses, certaines portaient un burkini. Alors on va passer sur la question de l'hygiène, hein. Ça a été prouvé plusieurs fois que le burkini, s'il n'est pas porté comme un vêtement en dehors de la piscine, mais que comme un maillot de bain, il pose absolument aucune autre menace sanitaire qu'un maillot de bain plus petit. Et pour avoir personnellement laissé le maillot de bain que je mettais à la piscine en CM2 en boule dans un casier pendant toute l'année scolaire, renfilant inlassablement chaque semaine, ce qui à la fin s'apparentait plus à du Beaufort qu'à de l'Elastane, je vous jure que c'est pas 4 burkinis qui vont changer la donne. Alors on le sait que le bruit autour des questions qui touchent le corps des femmes musulmanes en France, ça a rarement trait à la libération des femmes, et plus souvent à une tentative de limitation de la liberté des musulmans. Et à la limite, si ça vient de gens ouvertement islamophobes, franchement, c'est de bonne guerre. Moi, ça me dérange pas, quoi. On va pas être d'accord, mais y a pas de non-sens, quoi. Mais j'ai vu des réactions à l'action dans la piscine de dimanche qui venaient des nanas qui se disent féministes. C'est chaud quand même. Dire je suis féministe et empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent, c'est un peu toujours ces féministes-là d'ailleurs auxquelles on donne la parole. Alors, c'est des blanches, hétéros, cis, minces qui sont là, ouais, le féminisme. Et les mecs qui sont là, mais attention, hein, nous on veut pas se faire emmerder. Vous voulez faire quoi là, avec votre féministe? Et les filles sont là, ouais, le féminisme. Et les types sont là, ouais, donc ça change rien en fait. Ouais, le féminisme. Elles font des t-shirts, elles sont contentes, tu vois, ça dérange personne. Et c'est pratique l'activiste comme ça à part ça. Du coup, moi je suis végétarienne, ça fait 6 ans, je mange plus de viande que 4 fois par semaine, grand max. Donc je suis quasiment végane, quoi.
Non.
Mais moi, ça me paraît intenable de dire que t'es pour la liberté des femmes et d'en exclure les musulmanes. Tu vois, c'est toujours la même chose. Après, avec les gens que l'existence des musulmans froisse, quand tu rentres dans les détails, c'est toujours un peu vaseux idéologiquement. C'est toujours une espèce de camoulox. Ils sont là, non, mais parce que le burkini, la République, parce que le chômage, la taxe carbone. Alors bon, hein, alors. Mais les gars, arrêtez de vous faire peur avec des trucs qui n'existent pas. On est sur Terre 5 minutes, on va pas les occuper à flipper parce qu'il y a des gens qui couvrent des trucs, d'autres qui couvrent pas. On s'en fout en vrai. Laissons les gens traiter leur corps comme ils veulent. Moi, par exemple, le highlighter, je suis pas fan. Vous voyez ce que c'est le highlighter?
Ouais.
C'est un truc de maquillage où tu forces un peu le trait, comme ça, un truc très pailleté, irisé sur les points de lumière, sur les tempes, sur le bout du nez, etc. Moi, je trouve les filles, elles abusent un peu. Enfin, il y en a, j'ai l'impression, on dirait qu'elles ont roulé des pelles aux mecs qui sont peints en doré, tu sais, qui font les statues devant les musées comme ça.
D'ailleurs, eux, ils me font.
Je les supporte pas, d'ailleurs, ils me font pas. À chaque fois que tu mets une pièce, ils se mettent à bouger, j'ai envie de leur mettre des coups de coude, ils me font. Bref. J'aime pas le highlighter, mais c'est pas grave, on s'en fout, tu vois, je laisse les faire. Les gens à la piscine, c'est pareil. Au lieu de vous agiter, la République, la laïcité, on a pris la Bastille pour que j'ai le droit de voir vos cuisses. Concentrez-vous sur ce qui vous rassemble, sur cette belle communauté de tordus que vous formez, vous, les gens qui aimez la piscine et les valeurs qui vous réunissent. Des gens qui trempent tous leurs pieds dégueulasses dans le même pédiluve et qui s'imaginent qu'ils ressortent magiquement propres. Non, c'est faux, mais très bien si c'est votre truc, tu vois. Des gens qui, après la piscine, prennent des douches et sortent les cheveux mouillés en hiver, par moins 15, ouais. La nuit, après le boulot, par choix, et qui te disent, ah ouais, non, mais moi, nager, ça me fait un bien fou. Ok, très bien, tu vois. Des gens qui sont d'accord sur leur temps libre de mettre la tête sous l'eau et de tomber sur un sparadrap qui ne leur appartient pas. Bref, laissons ces gens bizarres vivre, peu importe ce qu'ils portent.
Bravo,
Marina. La bande originale.
Ça me fait penser qu'il y a un très bon film réalisé par Zabou Breitman, co-réalisé par Zabou Breitman.
Ah oui, Les Hirondelles de Kaboul.
Les Hirondelles de Kaboul, qui est formidable, hein. Justement, où tout le problème du burkini...
De l'obscurantisme.
De l'obscurantisme est évoqué.
Les Hirondelles.
Oui. Non, mais c'est intéressant.
Ça sort aujourd'hui.
Mais elle a fait 45 entrées.
Je sais pas si matin. Ça... Non, si, ça sort aujourd'hui.
Oui.
D'accord, très bien.
Non, mais j'imagine que c'est toutes ces femmes qui, effectivement, qui portent le burkini ou la burqa en le revendiquant sont très utiles au mouvement derrière fasciste ou islamiste, j'imagine, quelque part. Rendre service, au fond...
Je ne sais pas si ça rend service.
La seule question, c'est est-ce qu'elles le font parce qu'elles le veulent ou parce qu'on leur impose.
Oui, sauf que moi...
Ça se pose une question.
Sauf qu'à partir du moment où on se dit féministe, on considère qu'on ne va pas dicter un mode vestimentaire à une femme, que ce soit en plus court ou en moins court. Et moi, ce que je trouve toujours étonnant...
Ça ne concerne pas le féminisme, ça.
Non.
Mais quel rapport avec le sparadrap de la
piste? Ça couvre...
Ce que je trouve étonnant, c'est sur les plateaux de télévision, quand des hommes politiques blancs s'érigent tout d'un coup contre la manipulation de ces femmes. J'adorerais aussi qu'ils viennent râler parce que les femmes sont pas payées autant qu'eux. J'adorerais aussi qu'ils arrêtent d'exciter et d'agiter la notion de féminisme simplement pour ces femmes qui sont voilées, mais qu'ils l'agitent aussi pour toutes les femmes qu'on est toutes et qui réclamons les mêmes droits qu'eux, en réalité.
Et surtout qu'ils sont...
Très bien, Leïla.
Oui, mais derrière ces femmes qui vont à la piscine, il y a des hommes, je pense. Et nous l'oublions pas.
Toutes les femmes, alors.
Non, pas derrière toutes les femmes, je pense pas. Je pense que derrière ces femmes-là, il y a des hommes et des groupes politisés, religieux. Mais bien sûr, évidemment. Vous vous rappelez le dessin de Cabu extraordinaire,
si
ce dessin de Cabu.
Je sais pas si c'est si
génial
évident.
Où on voyait tous ces religieux. Facho, extrémiste, etc. Puis il y avait deux femmes qui revendiquaient dans le dessin leur burqa et les mecs derrière. Et c'était génial ce dessin parce que ça.
J'ai pas compris le dessin.
Le dessin, c'était deux femmes en burqa qui revendiquaient la burqa. Et d'accord. Derrière, il y avait tous ces mecs, ces religieux, cathos, musulmans, juifs, etc.
De toutes les religions.
De toutes les religions extrémistes qui qui manifestait avec ses femmes.
D'accord. Mais tu as raison.
Qui les envoyait un peu au casse-pipe.
C'est bien aussi de souligner que les extrémistes sont dans toutes les religions, justement. C'est bien aussi
dans le sens de ce que dit Vincent. À Grenoble, il y a eu une affaire du Burkini récemment. Et une des promotrices, si j'ose dire, de ce mouvement, avait déclaré quelques mois avant que les gens de Charlie, eh bien, c'est eux qui avaient dégainé les premiers, et donc ils méritaient peut-être leur sort.
Oui, mais une ne vaut pas pour toutes.
Bah, c'était la leader du mouvement, oui, donc faut se méfier de ce genre de mouvement.
Mais une ne vaut pas pour toutes, encore une fois. Tu peux avoir la reine des connes à la tête d'un mouvement, et tu peux avoir une autre nana qui en porte un par ailleurs et qui n'est pas d'accord avec elle.
Sortons de ce
débat. Il y a des sparadras stérilisés qui ne polluent pas du tout.
Il y a des sparadras innocents.
Oui, voilà l'innocence.
Je ne crois pas non plus qu'en 5-10 minutes on puisse résoudre le problème à ce micro.
C'est dommage.
Allez, surtout comme tous, peut-être.
Andy, donc, ce film de Julien Veil, co-signé par Julien Veil, Vincent Elbaz et Grégory Boutboul, porté par Alice Taglioni et Vincent Elbaz. Comment est venue l'idée, Alice, quand il vous a présenté, quand Julien Veil vous a rencontré? J'imagine que ça se passe comme ça, un premier rendez-vous en disant, voilà, on lit mon scénar et on se rappelle, on se voit.
Je suis inscrite sur son site d'escorte et puis on s'est rencontrés.
Comment lui, vous l'a raconté?
Non, mais lui, ça faisait très longtemps qu'il était sur ce projet. Je pense que ça fait quoi, 4-5 ans?
Peut-être un peu moins, mais oui.
Moi, je suis vraiment la petite jeune du projet. Je suis arrivée 2 mois avant que le film se fasse.
D'accord.
En fait,
mais il vous l'a expliqué en disant c'est une comédie romantique.
Il m'a rien expliqué, en fait.
Il vous a demandé d'être. D'accord.
Non, mais vraiment, c'est assez basique. Mais j'ai lu sans connaître Julien, avec déjà l'idée que ce serait, enfin, en sachant que ce serait Vincent Elbaz, et j'ai trouvé que cette écriture était différente, était décalée, c'était très bien écrit.
Et vous avez tout de suite
vu. C'était très moderne finalement.
Voilà, le ressort comique.
D'accord. Et j'ai beaucoup aimé le personnage qu'on me proposait justement parce qu'il y avait cette évolution et voilà, donc il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à construire et à vivre avec elle.
Il cherchait une actrice qui puisse me coller au mur en
signe. C'est vrai.
Qui puisse me frapper. Il s'est dit, tiens, Alice, quand il l'a vu débarquer, il s'est dit, ah, ça fait peur.
Oh, arrêtez avec ça, donc.
Si tu savais le nombre de gens qui ont envie de te coller au mur.
Eh bien, écoutez, c'est 159 euros plus le taxi.
Et le burger.
Ouais.
Ça, c'est la bande originale du film. Ulrich Forman avec Before the Night.
Super méo, j'aime beaucoup.
Ouais. Il y a aussi Come to Me.
Il y a de l'émotion dans ce film.
Ouais, exactement.
Non, vraiment.
Non, c'est une comédie romantique réussie avec cette toile de fond sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans vos vies, Alice Taglioni, dans les années 80, vous écoutiez.
J'adore. Ma fille écoute ça maintenant. C'est quand même
drame
dingue.
Social.
C'est quand même dingue de se dire que 30 ans après, voire plus, nos enfants écoutent ça aussi. J'étais quand même à son spectacle au Palais des Congrès.
Et c'était bien.
40 ans après.
Et c'était bien.
Le même.
Est-ce que vous aviez, comme beaucoup d'enfants devenus adultes et l'entendant chanter, que ce soit Chantal Goya ou Dorothée, d'ailleurs les deux provoquent.
J'aimais moins Dorothée.
D'accord, mais elle provoque en tout cas une espèce de montée d'émotion.
Complètement.
Vous étiez aux larmes aussi?
Moi j'ai pleuré. Hein.
Ouais, voilà.
Ah ouais, non, mais j'ai encore un petit peu la larme.
Et dans ces années-là, c'est la découverte de la musique, simplement Pandi Panda, c'est aussi le piano.
Oui.
Je crois que c'est toute la famille entière pratique un instrument, vos grands-parents, vos parents.
Moi, j'y viens naturellement en accompagnant mon grand frère à ses cours de piano. Lui, ça le saoule vraiment, j'ai l'impression. Et moi, je mets les mains sur le piano et la prof finit par dire, on va peut-être
échanger,
soit lui donner des cours aussi, la petite. Donc, c'était une envie qui venait de moi et qui est restée très longtemps.
Vous jouez toujours?
Oui.
C'est comme une gymnastique quotidienne?
C'est pas une gymnastique, c'est
vous avez besoin de ça?
Ouais, c'est. C'est comme un langage, c'est comme si d'un coup on me coupait les mains ou qu'on m'enlevait la parole.
Et voilà, quand vous mettez au piano, c'est parce que vous êtes dans une humeur particulière, parce que vous êtes seul, parce que vous êtes nostalgique, parce qu'au contraire vous êtes joyeuse.
Peut être de plein d'humeur et ça ressort. Parfois c'est nostalgique, parfois c'est énervé, parfois c'est très calme. Enfin, mais ça me fait beaucoup de bien.
Et qu'est-ce qui a fait que vous n'en ayez pas fait votre métier?
Mais je ne me suis jamais imaginée concertiste. Ouais. Je m'imaginais peut-être concertiste, mais pas autre chose. Or, concertiste, je pouvais pas. J'ai pas assez travaillé. Parce que ça demande un travail incroyable.
Abnégation.
Ça. Puis c'est un boulot de solitaire total, encore plus pianiste, parce que les instruments à cordes ou les instruments à vent, ils font partie d'orchestre souvent. Le piano, c'est seul. Moi, j'ai été la pauvre, je vais faire pleurer, mais j'étais quand même un peu seule avec ça.
Ouais, enfin, je pense que Renaud Capuçon, seul avec son violon, a dû aussi bosser des heures.
Ah, il bosse pas beaucoup, Capuçon.
Il se retrouve souvent avec un ensemble.
Ouais, c'est vrai.
Bon, donc voilà, je voulais pas en faire mon métier. Non, je voulais vivre avec, mais pas en faire mon métier.
Vincent Elbaz, vous écoutiez dans les années 80. Les Stray Cats.
Les Stray Cats, oui. Ah oui, mes parents me... Ah oui, je me souviens d'être allé acheter cette cassette avec mon père qui m'a dit... Je refuse de t'acheter cette merde. Alors putain, j'ai insisté et tout, et il m'a dit... Bon, ok, je t'achète les Stray Cats si tu prends James Brown, la cassette de James Brown.
Ah, bah voilà, bon papa.
Et je ne voulais pas écouter James Brown, j'avais 9 ans, je ne voulais pas écouter. Et lui, il était soul groove à mort et tout. Et ma mère aussi, ils m'ont regardé en disant, pourquoi il écoute du rockabilly? Pourquoi notre enfant écoute du rockabilly? Mais pourquoi? Il a 9 ans, pourquoi il achète les Stray Cats? Personne ne comprenait.
Surtout, Vincent, le rockabilly des années 80, c'est-à-dire que c'est encore.
Mais en fait, c'était assez pointu en réalité, parce que les Stray Cats, c'est pas.
Je vais finir ma phrase en 2 secondes.
Oui, allez-y, pardon.
Je pense que si vous avez dit à votre papa, je veux écouter Chuck Berry, je veux écouter Gene Vincent, c'est-à-dire les vrais des années 50 et 60,
ça serait mieux passé.
Non, 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 lui il était James.
Il passait pour des mecs qui allaient reprendre un truc déjà fait.
Mes parents étaient James, point.
James
et éventuellement Woodstock. Bon,
c'est
voilà,
toujours très raciste le monde de la musique, c'est-à-dire quand on aime, on a une chapelle, on peut pas accepter que
James
ça soit
James. Non, ils étaient éclectiques, mais là les Stray Cats ça les a choqués.
Ouais.
Et puis j'ai voulu me faire couper les cheveux, les cheveux longs, et je suis revenu avec une coupe en brosse.
On peut parler des cheveux 2 secondes du film.
Et là,
pardon.
Oui, allez-y.
Ah bah oui. Bonne transition.
Vous avez la première chose que j'ai regardée ce matin. Oui. Ça m'avait inquiété dans le film. J'ai dit, oula, il a une tonsure là.
Est-ce qu'il a...
Non. Moi aussi, ça m'a inquiété. Quand j'ai dit bonjour la première fois, je suis
Vous avez le truc du curé là.
Et vous n'avez pas
dans la vie.
Évidemment que non, c'est un personnage.
Ah, évidemment que pas.
J'y ai cru, je me suis dit, tiens, il vieillit.
C'est comme le ventre, il l'a pas dans la vie, il l'a perdu.
C'est comme mon corps, à un moment donné, il faut travailler dessus pour un rôle.
Oui, vous avez pris du poids aussi.
Bah oui, il faut, non?
Je sais pas, il faut s'écrire où?
Non, mais il a eu un investissement pour ce personnage.
Non, mais le personnage, je le voyais comme ça, moi. Je le voyais pas du tout, je le voyais comme un gros chat d'appartement, voilà.
Un vrai acteur.
Qui aurait perdu des poils.
J'ai appris ça. Je ne vous dirai pas comment je l'ai appris, mais donc, j'ai donc appris que vous avez poussé l'acteur studio à vous tondre, entre guillemets, les cheveux, pousser le ventre pour se laisser aller, et que vous êtes même allé plus loin pour jouer le mec fatigué.
Ouais, qu'est-ce que j'ai fait?
Vous avez été l'heureux papa d'un enfant, et que donc ça venait vous aider à jouer le mec fatigué.
C'est vrai que ma dernière fille est née pendant le tournage.
Voilà. D'accord. Je ne sais pas. Yannick Samo qui m'a donné toutes ces informations et que je
et au-delà de la musique, en revanche, votre père vous a offert un objet très important, c'est un projecteur Super 8.
Ah oui, quand j'étais enfant, mes parents, oui, c'est vrai que j'ai, oui, peut-être que ça a joué sur ma fascination.
Qu'est-ce que vous regardiez?
Je regardais pas mal les burlesques quand même, Buster Keaton, Chaplin. Voilà, pas mal de burlesques.
Des dessins animés aussi ou pas?
Les Tex Avery, mais peut-être pas sur le projecteur. Mais sur le projecteur, je me souviens que j'avais des...
Tex Avery, c'était le ciné-club.
Ça je regardais.
C'est génial.
Et est-ce que c'est vrai que vous tombiez amoureux de toutes les actrices que vous voyez à l'écran? C'est pas que jouer avec,
j'étais fasciné les acteurs, évidemment. Dont Dustin Hoffman, par exemple, c'est pour moi un des mecs qui a ouvert la voie derrière. Il était un peu plus vieux que De Niro, il est arrivé un peu avant De Niro et Pacino. Il leur a ouvert beaucoup de choses. Et même s'il est moins, entre guillemets, moins, il est allé moins loin. Mais j'étais fasciné aussi par les actrices, oui. Bette Davis me fascinait, me faisait un peu peur. Quand j'étais jeune, je regardais des films, elle était fascinante. Elle se transformait.
Le regard de dingue.
Et Gina Rowlands, Meryl Streep, Adjani m'a fasciné.
Dans L'été meurtrier.
Elle m'a inspiré. Oui, ouais, entre autres, oui. Oh, oui, bon, d'accord.
Non, mais c'est vrai
c'est vrai.
Elle était dingue dans L'été meurtrier aussi.
Non, c'est vrai que les actrices m'inspirent beaucoup. Mais même au cours Florent, je me souviens, les actrices, je les regardais beaucoup jouer. Elles allaient chercher des émotions, des choses. Je sais pas, c'était intéressant.
Mais quand vous êtes déjà tombé amoureux, j'imagine, d'une actrice.
Oui.
quand on est un acteur amoureux d'une actrice,
c'est le bordel.
Est-ce que la vie est simple ou est-ce qu'on a l'impression que les deux jouent un jeu, les deux jouent la comédie?
Non, pas du tout. Non, je me souviens d'ailleurs au cours de théâtre, hein, les premières actrices avec qui j'ai des histoires, c'était au cours de théâtre et on travaillait des scènes, mais des fois c'était pas moi le partenaire, et puis on se dirigeait mutuellement. Fallait embrasser l'autre, fallait. Les cours de théâtre, non, ça m'énervait pas du tout. Je dis, mais vas-y, embrasse-la.
Moi, je m'en foutais complètement.
C'est-à-dire, quoi, c'est ça, c'est racaille. Dans les cours de théâtre, finalement, tu apprends à te libérer de tous ces problèmes moraux, je sais pas, de pudeur, de genre même. C'est ça qui est étrange. Bah oui, parce que t'es obligé d'embrasser des mecs dans des scènes de Fassbinder, par exemple.
Pas le choix.
Donc, comment tu fais?
Bah, tu le fais.
Bah, tu le fais. Tu te dis pas, je sais pas, moi, tu t'en fous.
En 96, Alice Taglioni, vous écoutiez. Mathieu Bogart.
Et en 96, Alice, oui,
je l'adore.
C'est des scénarios aussi, ces chansons. C'est des histoires qu'il raconte. Lui, Vincent Delerme, tout ça, ça raconte
Vincent
des histoires.
Vincent Delerme, j'adore aussi.
Il y a un très bel album qui arrive de Vincent Delerme avec Chamade. Ouais.
On vous retrouve en 96, en Corse, Alice Taglioni. Oui. Vous devez jouer, je crois, pour un concert.
Je suis avec une copine, on veut se faire un petit peu de sous. Ah. On est engagé par un gars qui tient un restaurant qui s'appelle Les Deux Magots en Corse, qui n'existe plus, qui a eu un destin corse.
Le féminisme.
Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit. Ouais, c'est horrible. Bon, bref, je n'ai plus là. Et donc, on jouait tous les soirs dans ce restaurant. Et on s'est un peu fait arnaquer sur ce qu'on imaginait avoir comme argent. Et au même moment, voilà, puisque je pense que vous allez y venir, il y avait une annonce pour être Miss Corse ou Miss Bonifacio, je sais plus. Et 5000 francs à gagner. 5000 francs, c'était des francs à l'époque. Et on y est allé, voilà, et on les a gagnés, ces 5000 francs.
C'est vous les avez gagnés.
C'est le coup de fil que vous avez passé à Geneviève.
Oui, parce que vous auriez pu participer ensuite à Miss France. Mais...
Je l'ai beaucoup aimé pour ça. Parce que, alors donc j'ai été élue Miss Corse, c'était drôle, c'était super, c'était vraiment un truc de vacances. Et puis pour moi, c'était vraiment très particulier d'être élue, genre Miss de beauté, entre guillemets. Parce que j'étais, mais pas du tout à l'aise avec ce que je représentais, avec moi-même, mon corps.
Pas bien dans votre peau. Quoi.
Ouais, pas bien dans ma peau, j'avais 20 ans. Donc c'était bien, c'était un espèce de défi relevé et c'était vachement, ça, quelque part, enrichissant. Mais, et donc... J'ai compris qu'en fait, là, il n'y avait pas 5000 francs à gagner pour Miss Corse, mais juste la possibilité de faire Miss France. L'obligation même. Et là, ça m'a paru. J'avais quand même si je ne voulais pas encore être actrice, cette idée que quelque chose m'attendait, mais de différent. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien d'être Miss France, mais de différent et que ça allait entraver quelque chose. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, de toute façon, elle savait que j'étais au conservatoire en piano. Je lui ai dit, je passe mon prix cette année, ça va me bloquer. Et elle a été très compréhensif tout de suite. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour elle.
Dans ces cas-là, c'est quoi? C'est la dauphine qui remplace?
Ouais, comment ça voilà, se passe? C'est très bien parce qu'elle était très, très, très fâchée de pas avoir gagné. C'est de la tricherie, c'est nul, elle est beaucoup plus grosse que moi.
Elle est devenue quoi, la dauphine?
Bah, elle a fait Miss Corse.
Le destin Corse.
Mais elle n'a pas gagné.
Non.
Donc voilà, enfin, tout était bien pour tout le monde à ce moment-là.
Vincent Elvaz, vous écoutez à ce moment-là. Ayam.
Déserter les terrains de jeu, il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Et on vous retrouve, Vincent Elbaz, à l'affiche de La vérité si je mens, de Thomas Gilou. Et pour les essais, justement, on parlait de se libérer au conservatoire. Il vous demande de draguer une fille.
Oui, mais je ne sais pas.
Décidément.
Et vous n'avez pas réussi
jusqu'au
bout.
Métier.
Comme pour être
métier de merde, métier de merde. Et en plus, après, on se fait maquiller, coiffer tous les jours. Non, c'est vraiment un métier
pourri. Je suis comme Alice. J'aimerais bien voir ça.
Comment dire? Il fait venir. Non, il n'y avait pas d'actrice, donc il demande à l'administratrice de la production, je sais pas, une jeune femme qui travaille dans le bureau, de s'asseoir en face de moi. Et j'attends
les instructions.
Non, j'attends de voir ce qui se passe entre nous dans la scène. Oui. Non, mais c'est, comment dire, c'est de l'acting, quoi. Enfin, tu regardes l'autre et puis tu essayes de trouver un moyen de communiquer. elle n'était pas du tout actrice. Donc il se passe rien du tout en fait. Et donc petit à petit,
à
en se regardant,
gêne,
et à force de se regarder, c'est fini par connecter. C'était drôle.
Non.
Non. Connecter dans le jeu, oh Nagui.
Vincent, ben oui, mais.
Et donc
pas,
Thomas, il regardait
pas,
ça en disant,
pas,
mais tu vas,
pas,
tu vas jouer un joueur.
Elle est
okay, pas. Oh pardon, oui, parce que j'ai le casque et je.
Ben non. Mais je veux
c'est insupportable.
Vous dites que elle n'est pas.
Insupportable la radio en fait.
Elle n'est pas. Vous dites que elle n'est pas actrice.
Elle n'est pas actrice.
Donc si elle n'est pas actrice et si vous êtes connecté, elle peut être, elle, dans un jeu très naturel.
Oui, oui, c'est ça, oui. Donc je sais pas, je suis resté silencieux en la regardant. C'était pas vraiment le personnage du film.
Oui,
c'est
bon.
Un juif du sentier très exubérant et moi, j'étais complètement... Mais c'est vrai que ça c'est... Non, je l'ai dragué sans lui parler. Bon, c'était drôle, voilà.
Pauline Verduzier, merci de nous rejoindre à ce micro. Pauline, bonjour. Journaliste indépendante, comme je l'ai dit, vous avez réalisé un reportage qui sera diffusé demain sur France Culture.
Les pieds sur terre.
Entre 13h30 et 14h. Et justement, on va en écouter un extrait. C'est un témoignage. Vous êtes allé à la rencontre de véritables escort boys, comme s'il y en avait des faux. Oui, c'était pas un comédien en tout cas. Rencontre d'un escort boy. Et voilà le court extrait qui donne bien le ton de la confidence. Non, ça c'est la musique, ça. De la confidence et de la confession. J'ai des gros doigts, moi.
Avant d'être escort, je travaillais dans le bâtiment. Je faisais ça parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait gagner sa vie. Et j'étais célibataire. J'étais aussi un peu libertin. Certaines rencontres avec des femmes, en fait, m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être des qualités, peut-être que je devrais faire monnayant de l'argent, quoi. Et puis, je me suis un peu renseigné en regardant un peu sur les sites. Je voulais travailler vraiment par une agence aussi qui soit un peu sérieuse, quoi, parce que ça reste quand même un monde un peu où c'est toujours un peu compliqué, quoi. Ça reste la prostitution, quand même, quelque part.
Il a presque du mal à formuler, d'ailleurs, le mot prostitution, parce que
oui,
c'est d'ailleurs ma première question. Donc, ça existe, escort boy, il n'y a pas de doute. C'est
J'en ai trouvé.
Illégal, c'est, est-ce qu'ils se mettent en danger en disant « oui, je me prostitue » ?
Alors non, parce qu'en France, en fait, la prostitution, ce n'est pas illégal. En fait,
c'est
l'achat.
Ouais.
Alors, le proxénétisme, effectivement, c'est l'achat d'actes sexuels. C'est-à-dire que depuis la loi de 2016, en fait, on est dans un système dit de pénalisation du client. C'est-à-dire que si vous vous faites attraper, si vous faites interpeller, là, ça serait plus sur de la prostitution de rue. Enfin, c'est plutôt une interpellation, a priori, plutôt dans l'espace public. Vous vous exposez à une condamnation, par exemple, une condamnation d'une amende. Alors, c'est en théorie, il me semble que c'est 1 500 €. Mais en mars dernier, par exemple, il y a des hommes qui ont été condamnés à une amende de 150 €, ce qui est beaucoup moins. On peut être condamné aussi à un stage de sensibilisation. Donc ça, c'est un stage
donc
où
on condamne celui qui
on condamne
consomme.
Pas l'escorte. On condamne pas l'escorte. Parce que le législateur,
le client.
Exactement.
D'accord. Mais
le
c'est une hypocrisie
absolument
totale.
C'est censé être abolitionniste, mais voilà. En fait, c'est l'idée qu'on va couper le robinet en coupant la source des revenus de la prostitution.
D'autant qu'on m'a on m'a expliqué que les prostituées, hommes ou femmes, déclaraient leurs revenus aux impôts en tant que prostituées.
Alors oui, moi ça, j'ai rencontré des
prostituées. Donc le proxénète là-dedans, c'est l'État, quoi.
Bah,
ça dénonce.
Non, mais c'est quand même dingue,
ouais,
cette hypocrisie.
Disons que oui, c'est des gens qui gagnent de l'argent de cette manière-là, qui le déclarent en auto-entrepreneur éventuellement, sous la forme de massage ou ce genre de choses. Enfin, on peut mettre plein d'intitulés. Mais oui, effectivement. Et eux, enfin, a priori, ne sont pas dans l'illégalité, en tout
donc
cas.
Donc, c'est pas condamné par la loi. Vous les avez rencontrés en allant, comme l'a fait peut-être le réalisateur Julien Veil, c'est-à-dire sur les sites,
oui,
en
alors,
cliquant.
Sur Internet.
D'accord.
Pas dans la rue pour cette fois, parce que la prostitution masculine, c'est quand même pas mal sur Internet, c'est des escortes indépendants. Après, des escortes hétérosexuelles, c'est plus dur à trouver. Mm-hmm. Il y a plutôt des profils bisexuels ou gays, mais ça existe. Donc, je les ai trouvés sur Internet. Il faut dire que c'est plus facile dans des pays où c'est plus simple aussi pour les clients, comme la Belgique ou la Suisse. En Belgique, si vous allez voir une sexologue, que vous êtes une femme et que vous avez des problèmes dans votre sexualité, on peut vous recommander d'aller voir un escorte.
C'est une prescription carrément médicale.
C'est pas une prescription, mais disons que c'est beaucoup plus décomplexé. Chouette. Et
oui,
voilà.
Moi aussi,
j'ai fait crier. Mais est-ce que je veux dire, est-ce qu'escorte, pardon, parce que souvent quand on disait escorte, on sous-entendait que c'était quelqu'un qui vous accompagnait dans un certain nombre d'endroits et qui n'avait pas forcément, ça n'allait pas jusqu'au bout, comme Andy.
En fait, le mot escorte, c'est devenu un peu un mot valise, un mot générique qui recouvre effectivement des services d'accompagnement qui vont être lors de mondanité ou alors...
Pour pas être seul dans un dîner.
C'est ça, mais ça peut même être en face à face. Ça peut être parce que l'équivalent féminin, c'est la girlfriend experience. Donc ça veut dire qu'on va avoir une escorte qui va jouer un peu être la petite amie et plus si affinité. Ça peut exister aussi à l'inverse avec un escorte homme. Mais maintenant, escorte, ça recouvre aussi les relations sexuelles tarifées. Ouais. C'est un mot valise, c'est devenu un nom générique en fait.
Est-ce que comme on le voit dans le film, ceux qui décident de devenir escort boy et la manière dont on entend même la voix de votre témoin.
Il est timide.
Non mais on imagine qu'ils sont obligés, poussés, désespérés pour faire pour
alors,
en arriver
non,
là.
En fait, il faut faire attention. En fait, les situations sont extrêmement diversifiées. Donc lui, effectivement, c'est quelqu'un qui était très isolé, qui était ouvrier du bâtiment, qui a trouvé un peu cette voie-là pour gagner de l'argent. Et en fait, lui, comme il bosse dans une agence d'escorte entre guillemets de luxe, ses tarifs sont pas mal élevés. Donc et comme il vit très chichement dans un tout petit studio à la frontière suisse, ça lui convient pour vivre. En revanche, dans mes recherches, j'ai interviewé d'autres hommes qui eux étaient infirmiers, chefs d'entreprise, serveurs, même acteurs. Et qui, eux, en fait, faisaient quelques rendez-vous avec des femmes pour arrondir leurs revenus, en fait. Donc, mais c'est très dur d'en vivre. Encore une fois, la clientèle féminine, c'est quand même marginal par rapport à la clientèle masculine.
Ils font ça pour l'argent, pas pour le plaisir.
Ah, c'est ça la question.
De le faire.
Disons que j'en ai trouvé. Enfin, en fait, c'est dur de trouver quelqu'un qui dise vraiment qu'il soit, soit pour l'argent, mais ils vont toujours ajouter quelque chose. Ça va être aussi pour le don de soi, pour aider les femmes à se réapproprier leur corps. Il y a tout ça. Mais il y a des hommes qui l'assument.
C'est des alibis.
Mais il y a des hommes qui l'assument, notamment un escorte qui s'appelle Andy d'ailleurs, qui est dans le documentaire qui passe demain dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Lui dit que.
À 13h30
Oui, à 13h30. Lui dit qu'il lui arrive aussi de prendre son pied et qu'il est même fier d'être payé pour quelque chose que certains hommes sont prêts en général à payer d'habitude.
Quand vous parlez de plateforme, ça sous-tend quoi? Qu'il y a de l'argent qui est laissé à ces organisateurs et que tout n'est pas donné directement?
À les agences d'escorte, vous voulez dire? Alors, les agences d'escorte, ça veut dire qu'effectivement, il y a une sorte de proxénète, de mère Mackerel en l'occurrence. C'est une femme qui s'appelle... je vais pas dire son nom, mais c'est une femme qui est la directrice de cette agence pour laquelle Romain travaille. Donc, c'est
juste
le numéro
portable à Daniel Morin, ça pourrait juste être...
Et ça, c'est basé en France?
Ça, c'est en Suisse.
Ah, ça, c'est en Suisse. En France, on n'a pas le droit d'avoir cette plateforme-là.
C'est une agence d'escorte de luxe en Suisse, mais l'autre, Andy, par exemple, c'est un escorte indépendant. Donc, lui, il a son site internet. Donc, lui, il n'a pas de mère Mackerel ou quoi que ce soit. Lui, il a son livre d'or avec les témoignages des femmes, avec ses pratiques. Et donc, on peut le contacter directement.
Directement. Café, livre d'or, café.
Non, mais pendant le press junket du film, on s'est fait interviewer par un journaliste.
Je t'entends très bien.
Ah bon, pardon, excusez-moi. Je suis encore un peu saoul. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus.
Voilà. Café d'interview.
Non, une interview d'un journaliste un peu connu d'ailleurs, je ne dirais pas son nom, mais il m'a dit c'est drôle, après l'interview, j'ai deux copains qui ont divorcé, ils ont des enfants et tout, et qui sont un peu branchés sexe et tout, et qui se sont mis escorte. Et qui gagnent du fric comme ça, en disant bah, ils allient plaisir
et gain.
Et il a deux potes qui font ça à 800 balles la nuit. Je sais pas où ils trouvent leurs clientes parce que effectivement.
Marina, tu lèves la main parce que tu as une question à poser ou parce que tu es suisse.
Oui, parce que j'ai une question à poser qui est, c'est bizarre qu'on se focalise sur la prostitution, sur cette idée de genre. Mais donc ils le font pas par envie. Mais qui travaille par envie en fait? On a de la chance autour de cette table d'avoir des métiers privilégiés, mais 99% des gens font pas des métiers en disant genre quelle passion d'être à la caisse.
T'as raison.
Mais surtout
pas pour tous les métiers, mais heureusement il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent choisir que ce soit. Que si tu es artisan, que si tu es sportif, acteur.
On doit bosser,
acteur,
quoi, disons. On est obligé de
c'est
besoin.
C'est un travail, mais en tout cas, alors pour en venir au plaisir et pour rejoindre le film Andy, il y a, sans faire de mauvais jeu de mots, le handicap de l'érection qui n'arrive pas pour l'escort boy. Est-ce que ça aussi, dans vos témoignages, vous l'avez entendu?
C'est amusant parce qu'il se trouve que Andy, l'un des témoins du documentaire, m'a dit que ça lui était déjà arrivé et il me semble que c'était avec la femme qui lui plaisait le plus.
C'est un biopic, en fait, donc, ce film.
C'est drôle, mais c'est assez drôle.
Ouais. Mais que globalement, il n'avait pas trop de problèmes. Ouais, mais après, ce qui est compliqué, c'est aussi parfois le profil des clientes. Parce que, comme j'ai dit, un certain profil de cliente, certes, il y a des femmes d'affaires, des femmes qui veulent quelque chose de très précis ou qui ont des fantasmes particuliers. Mais il y a aussi des femmes qui ont vécu des violences, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes de libido, qui ont ce genre de choses et qui sont vraiment dans une démarche, en fait, de se réapproprier leur corps. Et ça, on en a beaucoup parlé. Et j'ai moi-même interviewé des clientes de la prostitution masculine dans un documentaire qui s'appelle s'appelle Les clientes du sexe, sur Les pieds sur terre.
Les pieds sur terre, elle est super. Ouais,
merci. Ouais. Et donc, il y a ça aussi. Donc, c'est en ça que c'est aussi un travail, en quelque sorte, et qu'il y a des escortes qui revendiquent ça comme une vraie, un vrai travail, en fait.
Merci, Pauline Verdusier. Merci. C'est donc demain à 13h30 et jusqu'à 14h, dans Les pieds sur terre, sur France Culture, ce reportage et ces témoignages récoltés par Pauline. Bonjour, Tanguy.
Bonjour, Nagui.
Vous allez nous parler de Pascal le Grand Frère.
Ah ouais, je l'adorais il y a quelques années, mais j'étais déjà trop âgé pour taper ma mère. Hein. J'étais pesé, du coup, j'ai jamais pu passer dans l'émission. Pascal, l'ex-roi des soirées de TF1, gagne aujourd'hui 400 euros par mois. Il est dans la galère. Et comme il a engueulé tout le monde au moins une fois, personne ne veut l'aider. Bah, il fait moins le malin maintenant.
On en parle après les infos.
Bonjour à tous.
Marina Rollman, Tanguy Bassureau,
bonjour.
Daniel
Morin, bonjour
Marina. Albert Albi.
Bonjour.
Et nos invités Alice Taglioni et Vincent Elbach.
Oh, bravo.
Pour ce film, Andy, qui est une comédie romantique, il y a des pures vannes échangées, c'est très rythmé. Aussi, j'allais dire comédie d'action, quand on voit le nombre de claques que va recevoir Vincent Elbaz. Non, mais j'ai mal pour lui, sans blaguer, j'ai mal. On a beau dire que c'est du cinéma, je pense quand même que ça a dû chauffer au niveau de la joue gauche.
Oui, il y a une jolie tentative de viol aussi sur moi. C'est très drôle. Et ça fait rire parce que c'est un homme.
Non, ça fait rire parce que c'est une comédie.
C'est un homme.
Si c'était filmé autrement, ça ferait pas rire.
Non, je pense que ça fait rire parce que malheureusement, non, je pense que cette scène, elle est drôle parce que...
Il y a des hommes qui sont violés, c'est pas drôle.
Je sais pas. Alors ça, c'est une grande question. Je me suis toujours demandé comment ça se passe parce que...
Il y a la violence faite aux hommes aussi.
D'accord.
Bon. C'est moins courant, donc on en parle moins.
Mais c'est surtout que les gens ont honte de témoigner. En fait, les hommes, justement, se disent c'est tellement.
Bon, dans ce film, en tout cas.
Enfin, il y a cette cliente qui m'agresse quand même. C'est assez qui tente de m'arracher mon slip, et c'est vrai que je ne le referai plus. Je ne referai plus ce genre de scène.
C'est une cascade.
J'étais griffé, mordu, battu. mais sauvé par Alice, par le personnage d'Alice.
C'est vrai aussi que dans cette comédie romantique, et au moment de se dire je vais être escort boy et je vais monter une espèce d'arnaque où Alice Taglioni va jouer, entre guillemets, le rôle de ma femme comme ça, je n'aurai pas à passer à l'acte et je pourrai garder l'argent et ça sera notre deal. Arrive le moment où il y a une cliente qui vous trouble. Plus qu'une autre, et où là vous dites là je ne joue plus.
Oui, elle est touchante en plus. Oui, elle est touchante, elle joue par Alison Paradis. Effectivement, à un moment donné, il tombe sur une cliente un peu jeune qui peut ressembler à ce genre de femme chez qui il a dû vivre à un moment donné, s'installer. Et donc,
ça sera sa première question d'ailleurs. Est-ce que tu as un appartement?
Oui, c'est ça. Oui, il lui demande si elle a gardé l'appart.
Est-ce que tu as gardé l'appart?
Oui, parce qu'elle s'est fait quitter par son mec. Enfin, elle a divorcé. Et oui, d'ailleurs, à sa première date, il la revoit, et puis oui, le lendemain matin, elle réveille et le mec est en train de faire le ménage chez elle. Quoi.
Il est, oui, et puis il y a une espèce de lâcheté quelque part chez lui dans son comportement.
Oh oui, c'est pas un grand courageux. Hein.
Voilà, déjà vis-à-vis de lui-même, lâcheté aussi musculaire vis-à-vis de l'ex-mari.
Il y a beaucoup de choses qu'il lâche, lui, hein. C'est ça le problème.
Et puis votre personnage, Alice, ce qui est touchant, c'est que c'est ça pourrait être une histoire vraie, c'est-à-dire en effet une femme battue qui coupe les ponts avec la société, c'est-à-dire avec l'image qu'elle
qui
a d'elle-même.
Ouais. Franchement, j'ai cette impression d'aller se terrer quelque part pour pas avoir à faire pire, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un qui...
Et puis d'agresser un peu les autres verbalement, comme pour se protéger aussi. Bah, c'est une forme de défense.
Complètement.
Quoi.
Ouais. Et même dans son rapport à la nourriture, on voit à un moment, au début du film, on la voit en train de manger. Enfin, c'est pas manger.
Elle se goinfre.
Elle se goinfre, quoi. C'est compulsif. Elle a besoin de remplir, en fait, c'est ça, de remplir quelque chose qui est
le
plus là.
Le vide qui est en elle, ouais.
Le respect qu'elle a pour elle-même, l'affection qu'elle a plus, le regard d'un homme sur elle, mais... elle est seule au monde.
D'ailleurs, on a la sensation qu'elle pourrait rebasculer.
Mais je trouve qu'elle s'en sort très bien. On n'est pas dans un cas. Elle est forte quand même.
Et c'est drôle, tout ça est drôle, même si la toile de fond est plutôt triste. Mais c'est à partir de ces situations, on le dit souvent à ce micro, de situations un peu tristes qu'on peut faire éclater le rire, le film.
En tout cas, c'est Julien le talent Veil. De Julien Veil.
Andy, le talent de Tanguy Pastureau, le voici sur la... Tanguy, dit, la télé, par essence, c'est un monde éphémère.
Oui, un jour vous êtes au top, tout là-haut avec Ariel Dombal à chatouiller les fesses des anges avec votre nez. Le lendemain, vous n'êtes plus rien. Même François de Rugy, croisé à la poissonnerie, vous dit « Vieux, j'aimerais pas être à ta place ». À la télé, on ne dure pas. À part vous, Nagui, qui avez une longévité exceptionnelle. Quand j'étais petit, je vous voyais à la télé. Maintenant, je suis adulte, je vous vois à la télé. Et en 2047, quand je mourrai à l'hôpital américain de Neuilly, parce que d'ici là, j'espère que j'aurai quand même fait un peu de blé, bah, je vous verrai à la télé en train de crier « Fait du bruit pour Maître Gims à l'occasion de son 28e album !» Et je dirai à Michel Sardou, qui sera dans la même chambre que moi, « Mimi, moi non plus, j'en peux plus de cette époque. Débranchement en tirant sur le fil avec la dent qui dresse. » La télé, ça passe. Regardez-moi, par exemple, depuis que je suis plus chez Ardisson, parce qu'il a dit non à l'alléchante proposition de Vincent Bolloré de faire son émission contre deux tickets resto et une claque dans le dos. Eh ben, on ne me reconnaît plus dans la rue. Alors que quand j'y étais... Bon, ben, on me reconnaissait pas dans la rue, mais enfin, j'y étais. Hein. Autre exemple, parce que je ne peux pas parler que de moi, même si j'ai conscience de la plus-value qu'il y a pour l'auditeur à découvrir l'homme derrière l'artiste. Pascal le grand frère. Qui n'a jamais vu une émission de Pascal le grand frère? À part Red Charles, parce qu'il n'a pas vécu du tout à la même époque. Explication pour l'éditeur de France Inter Type, qui décédera demain à 11h en découvrant que nous serons à Clairefontaine, la boîte à fouteux. Pascal le grand frère, c'était un type baraqué, trapu, le genre dans l'avion à réserver trois sièges, un pour son tronc, un pour son biceps droit, un pour son mollet gauche, et qui pouvait neutraliser un terroriste en plein vol juste en lui disant « Tu t'assois et tu finis de regarder le roi lion, sinon je te fais ce que Scar fait au père de Simba. » Ah ouais. Là, le terroriste, une fois sur deux, se mettait à hurler « Non, le roi lion, c'est Disney, chien d'Américain, on va éclater Mickey, elle a tapé ta souris. » Et donc, Pascal le grand frère était obligé de l'égorger. Et donc, on envoyait Pascal, qui avait un peu le mental de Martine Aubry dans le corps du Terminator, au sein d'une famille à problème, avec un S à problème. Hein, c'est-à-dire qu'en général, le père était mort de 16 cancers différents le même jour, l'oncle avait roulé sur le chien puisqu'il avait pris pour sa belle-mère, la maison avait brûlé à la suite de l'implosion d'un Samsung sur lequel avait été lue une interview vidéo des frères Dardenne, l'appareil cherchant à se suicider, et au milieu de tout ça, il y avait un préado de 12 ans qui tapait sa mère. Alors, premier jour, Pascal arrivait, disait bonjour, le préado répondait « Va te faire mettre, espèce de cheveux de Geneviève de Fontenay, pourri de n'avoir jamais vu la lumière », et Pascal avait 4 jours pour remettre le gosse dans le droit chemin. Et ça marchait. On lui donnait Hannibal Lecter en train de nettoyer les oreilles de sa sœur à l'Opinel. Un mois plus tard, on filmait le gamin, il était devenu responsable d'un club de bridge à la Baule, co-organisateur des soirées pull sur les épaules et chaussures bateau du parti Les Républicains. La détresse sociale de ses familles faisait passer la relation de Yann Moix avec la sienne pour la scène du film Les Schtroumpfs, dans laquelle le Schtroumpf gourmand a fait un gâteau pour tout le village.
Et aujourd'hui, que devient Pascal le grand frère?
Eh bien, Nagui, c'est très triste. Hier, il était invité de Non-Stop People, la chaîne qui part en édition spéciale.
Ça, c'est triste.
Si la robe de Kate Middleton s'est prise dans son slip. Et il a révélé qu'il était au chômage, hein, comme Benoît Hamon ou le libraire de Booba. Et en fin de droit, puisqu'il touche 441 € par mois seulement. Alors, vous allez me dire, avec 441 €, on peut quand même acheter 441 coquetiers à la foirefouille. Hein, ou un demi-centimètre carré de terrain en région parisienne, si on veut construire. Pour ceux qui nous écouteraient et qui seraient soit des fourmis, soit David Pujadas. Mais c'est peu, d'autant qu'il y a 15 ans, ce type était une star. Des femmes l'abordaient en lui disant « Passe chez moi, bébé, j'ai un fils de 14 piges, je suis sûr que si je le fais boire, il peut m'écraser avec le tracteur du voisin, sauve-moi mon amour !» De 2006 à 2013, il faisait quand même les deuxièmes parties de TF1, les deuxièmes parties de soirée de TF1. J'ai calculé, il a hurlé plus de 100 fois la phrase « Kevin, tu lâches ta mère et tu ranges ta chambre et pas le contraire, Kevin, tu fais quoi là ?» Et là, juste le temps qu'on réalise qu'il n'est plus à la télé, il est dans la misère. Mais c'est terrible les métiers du spectacle. Pour un Albert Algou, qui travaillait déjà dans le milieu en 58, quand il croise Alain Duhamel, il discute de l'invention de la caméra par Jean-Phi, un pote à eux de l'époque. Mais combien d'étoiles filantes? Séverine Ferrer, Philippe Risoli, Gilles Derrick, Yves et Hervé Noël, Jean-Christophe Cambadélis, toutes ces personnes nous ont fait rire quand elles passaient à la télé. Et là, on ne s'en souvient plus. Oui, Nagui, ce public qui est là en studio et qui vous adule, demain peut vous oublier. D'autant qu'ils sont assez âgés, donc demain, ça peut être immédiatement. Carpe diem, comme n'a jamais dit Aristote parce qu'il était grec. Pensez toujours à Pascal le grand frère. Toujours. Il était au firmament. Et là, dans l'interview, il dit espérer devenir chroniqueur de Cyril Hanouna. Vous voyez qui c'est? C'est un monsieur qui retape des stars. Il a récupéré Bernard Montiel, Valérie Benaïm, Castaldi, tout le monde. Vous lui présentez Daniel Gilbert, il a fait twerker en lui disant « Malou, tu vas cartonner sur les 15-25 ». C'est comme ça que, c'est pour ça que dans le métier, bah, tout le monde se met bien avec Hanouna. Pour nous, c'est comme un Pôle emploi, mais qui fonctionne. Bref, une pensée pour Pascal le grand frère et pour tous les gens de tous les secteurs dans ce pays qui est dans la banqueroute, qui galère avec 441 € par mois.
Merci. La bande originale. Maggie.
France Inter.
Et on retrouve Tanguy le 22 septembre au festival L'Air d'en Rire à Belvigny, c'est en Vendée.
Oui.
On va reparler de Andy, le film qui sort aujourd'hui, signé Julien Veil avec Alice Taglioni et Vincent Elbaz qui sont nos invités. Mais d'abord des questions, alors là vous allez pouvoir essayer d'y répondre. En plus ça concerne un tout petit peu vos métiers pour vous qui vous arrangez un tout petit peu avec la loi d'ailleurs dans le film. Le 13 septembre dernier, l'actrice Desperate Housewives, pardon, 13 septembre prochain, l'actrice donc de Desperate Housewives, Felicity Huffman, va comparaître devant la justice.
Parce qu'elle est à l'ivresse.
Non, moi je sais. Parce qu'elle a, tu sais, ah, un truc avec son fils, non, elle a fraudé, elle a, genre elle a les examens de son fils. J'aurais pu faire ça pour mon fils.
C'est, bien. C'est pour sa fille d'abord. Oui. Et d'accord, en fait, bon, c'est, non, c'est juste pour l'inscrire à la fac.
Je comprends.
Non, non, qu'elle rentre. Non
oui,
oui ouais, parce que l'inscription était trop tard, je sais pas.
C'est ça.
Patrick Balkany aurait pu faire ça pour lui-même.
Pas de mal de Patrick Balkany.
Aux États-Unis, on rigole pas avec ça.
On est d'accord. Pour ses enfants, on est prêt à tout. Que ce soit.
Mais elle risque beaucoup, je crois.
Mais la loi, c'est la loi. Quoi.
Elle risque 250 000 $ d'amende.
Et la prison, non.
7 ans.
20 ans de prison.
Non, c'est pas une blague. Mais ils sont tarés ou quoi? Pardon, hein, mais...
Et c'est pour juste une inscription, c'est pourquoi?
Association de malfaiteurs.
Ah ouais, parce qu'elle a fait des faux usages de faux...
Oui, oui,
parce qu'elle a corrompu, elle a corrompu quelqu'un et ainsi de suite.
Ah oui, ben, il y a des gens traités en Ouzbékistan.
C'est pas juste donner un paquet de chocolat pour que le dossier arrive dans le bon
endroit. La formulation, c'est association de malfaiteurs en vue de transférer des fonds dans un but frauduleux. Mais ils sont... Dingue, ouais, on est d'accord. Deux publicités viennent d'être interdites au Royaume-Uni, mais on peut presque se réjouir pour cette interdiction.
Le tabac?
Pourquoi? Non.
Alors, attendez, deux pubs
sur interdite. Un parti politique extrême.
Non,
le sexisme.
Ça concerne les femmes. Voilà.
Exactement. Ouais. Ouais. Sexisme. Les pubs comprenaient des stéréotypes de genre, des spots télé. Il y avait une marque de fromage, par exemple, dans ce spot. Il y avait deux pères au restaurant qui délaissent leurs bambins devant une assiette de fromage avant de les récupérer de justesse et déclarer « on va rien dire à maman ». Voilà, ça c'est la première chose.
J'ai bien fait de l'interdire.
Et la deuxième pub, c'est une voiture, géant allemand, où un couple de campeurs sur une falaise. Il y a deux astronautes masculins, un athlète amputé d'une jambe et une femme assise sur un banc. Oui. La femme est assise sur un banc avec un landau et tous les autres alors sont en train de faire des exploits sur la planète. Et la phrase, c'est quand on apprend à s'adapter, on peut atteindre les sommets.
Oui, c'est sûr.
Et donc présenter la femme avec un landau comme étant un handicap, c'était pas top. Bon, si je vous dis Johan Manka, Michael Lumière, Anton Sazar, Jérémy Lévin, ils sont peut-être pas connus maintenant, mais ils vont le devenir.
Ah, parce qu'ils sont nommés pour le Renaudot, pour le Goncourt, pour le...
l'équipe de France.
Attends,
de foot.
Vincent non plus.
C'est pas un prix littéraire.
Vincent Elbaz.
Non, je vous regardais comme ça avec un regard perçant, profond, et je n'avais rien, je ne pensais à rien.
Aucune idée.
Mon cerveau était vide.
Ils vont faire un gros truc dans la Silicon Valley, ça.
Non,
c'est un premier roman,
non.
C'est quoi?
Non, ils vont faire un gros truc.
Une start-up, ils ont inventé
un... Artistique.
C'est artistique.
C'est un groupe de musique.
Non,
ils vont faire un putsch en France.
Non, c'est dans
votre métier. Ah, c'est des futurs super-héros, c'est des acteurs. Ils vont faire un film.
Oui,
mais le prochain Marvel.
Les Avengers.
Vincent Elbaz.
Les 4 Fantastiques.
Ah, c'est la vérité, si je mens.
Ah, c'est les
Le préquel, oui, pardon.
Vous n'êtes pas du tout au courant, vous n'avez pas
vu. Si, non, je suis au courant comme tout le monde. Je suis plus au courant que vous, en fait.
Vous êtes qui?
Non, j'ai vu des photos, mais non, je l'ai pas rencontré. Mais je leur souhaite beaucoup de, je leur souhaite le même succès qu'on a eu nous quand on était.
Oui,
jeunes,
ça c'est la formule bien. De politesse.
Ouais.
Mais la vérité.
Non, mais la vérité, c'est que je n'ai.
Vous n'êtes pas concerné par l'histoire.
Non, c'est très bien. Non, je suis curieux de voir ce qu'ils ont. Non, je suis curieux de voir comment ils ont reconstitué les années 80 dans Paris. Par contre, ça m'intéresse en termes de cinéma, de production, quoi.
Pourquoi la nouvelle, ça sera la dernière question, pourquoi la nouvelle mannequin de la marque Zara fait polémique?
Parce que c'est un 42 et tout le monde disait qu'elle était grosse alors que pas du tout quoi.
Exactement.
42, la moyenne des Français c'est pas...
C'est une
42.
Femme normale.
Elle fait du 40.
Non, 40, arrêtez.
40 ou 42,
non,
c'est vrai. Et elle est présentée comme ronde.
Ouais. Non. Ah oui.
Voilà. Alors, c'est... Ouais. Vous avez été géré pour des marques tous les deux?
Oui.
Moi, je cherche.
On pousse des cheveux parce qu'il y a un an, il n'y avait pas de cheveux.
Bon, oui, par contre, oui, prends la calvitie, ça c'est foutu. Voilà. Ouais, c'est Pétrolane, mais Pétrolane. Ça ne se fait plus Pétrolane. Ça, j'aurais pu faire Pétrolane. Ouais. Sinon, je ne vois
vous,
pas.
Oui. Non. Vous, oui, Alice, ouais, les dictates de la mode, du mannequinat, tout ça, vous l'avez vécu de l'intérieur? Vous les avez
pas en tant que Géry, mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais,
Vous étiez mannequin aussi?
En fait, je n'ai pas été mannequin. J'ai essayé, mais je n'étais pas du tout...
C'est comme pour le piano, quoi. Ouais, vous voilà. étiez à ça de...
Non, mais j'avais pas envie, parce que justement, je voulais pas faire... J'étais trop ronde. Oui, moi, j'étais trop ronde à l'époque. Et je devais faire, oui, 38-40, mais ça n'allait pas. Mmh. J'étais trop... C'est fou. Il y avait plein de trucs imposés qui me correspondaient pas du tout. Et du coup, ça me faisait pas rêver. Il y avait des photos que je trouvais sublimes. C'était l'époque des top modèles. Et il y avait vraiment ces filles les plus belles du monde.
Les Naomi Campbell, là. C'est ça.
Voilà, ouais. Cindy Crawford, Estelle, tout ça. Et donc, ça me faisait rêver. Et voilà. Mais en fait, ce monde-là, après, je l'ai découvert. C'était... Mais c'est quand même ça aussi qui m'a donné envie d'être actrice. Parce que d'être plantée devant un appareil photo à pas du tout savoir quoi faire... Mmh. Quoi dire, quoi, pas du tout à l'aise avec mon corps. Je dis, mais j'ai envie de dire des choses, moi.
De jouer et de les vivre. Est-ce que comme Vincent, pour votre personnage, dans Andy, vous êtes allé chercher, je sais pas, des positions, des gestes, de pas être maquillé quand vous êtes dans le foyer, qu'est-ce que vous avez fait pour appuyer le personnage qui aller dans le foyer et qui redevient femme quand elle.
Il y a beaucoup c'est assez rare de faire ça dans les films, et en plus, moi, j'aime pas trop, mais là, dans ce film-là, il y avait pas mal de choses qui m'appartenaient, de fringues, d'accessoires. Alors c'est particulier parce que on aime bien se transformer, on aime bien créer un personnage, donc ouais. Justement sortir de tout ce qui nous appartient. Mais là, il y avait quelque chose. Je vais pas dire que je suis dans la vie comme elle, que je me maquille pas, que voilà. Mais il y avait quelque chose qui me met dans lequel j'étais très. Il y avait quelque chose de confortable pour moi avec ce personnage.
Un peu comme vous, Vincent, qui avez apporté votre propre ventre pour le.
C'est vrai, t'es venu ton propre ventre.
La comédie s'appelle Andy, comédie romantique.
C'est vraiment le problème de l'acteur français.
Ouais. T'as fait exprès.
Non, il y avait une belle brioche hein, quand même. Hein.
Oui, oui, bah brioche. Oui.
Il a fait exprès
pour les. Oui,
faut préciser. Ce qui est drôle, c'est que vous
avec son corps. Quoi.
Voilà, vous avez rasé, viré les cheveux, joué la tonsure. Vous êtes laissé
faire une calvitie et
laissé pousser le bide. Tout ça pour dire, je ressens un peu à Hugh Grant.
Non, oui, c'est cette phrase. Non, mais parce que Julien a écrit cette phrase. Non, mais le type sort de sa douche, il vit dans un foyer social et il dit non, mais je ressens, tu vois, moi, je suis un peu un mélange entre Hugh Grant et Richard. Et je me suis dit, le mec qui dit ça,
c'est drôle, ouais.
Il faut qu'il soit qu'il ait pris deux coups de pelle dans la gueule, ouais. Un sur les cheveux, un sur le bide, et il faut qu'on se marre quand
recul,
il dit
quoi.
Ça, c'est pas possible. Donc j'ai tout construit autour de cette phrase.
Ça marche, ça voilà. marche. On se marre, vous inquiétez pas de ce côté-là.
Non, mais mes cheveux ont poussé, et puis mon ventre.
Alors lui, ses cheveux ont pas repoussé, son ventre, oui, c'est Daniel Mann.
C'est un trucage, évidemment. Bon, vous le savez, en ce moment. Les temps sont durs pour Patrick Balkany, le sympathique et maudit maire de Levallois-Perret. Oui, le pauvre homme est quelque peu empêtré dans un marasme judiciaire, hein, pas très cool. Il a caché au fisc 13 millions d'euros. Il refuse d'admettre qu'il a des résidences secondaires aux Antilles et à Marrakech. Et là, je parle même pas des affaires de corruption qui apparemment font partie du folklore local levalloisien. Eh ben, ça s'arrange pas. Hein. Dans l'enquête sur la villa de Marrakech, on a retrouvé des peignoirs brodés à ses initiales. Des caisses de vin sur lesquelles on a trouvé, là encore, les initiales PB. Pour une villa qui est pas à lui, ah, ça fait quand même beaucoup. Hein.
C'est Patrick Bruel qui passait par là, peut-être. Son peignoir.
Allez, j'allais oublier. Il y a des livres qui sont dédicacés à son nom, hein, notamment un livre érotique sur les exploits les plus brûlants de SAS, avec comme dédicace pour Patrick, afin de se distraire des lectures arides des conseils municipaux. Petit coquin, celui-là. Non, mais attendez, en même temps, c'est vrai que c'est important de se distraire. Hein. Quand tu mènes une vie trépidante, il est primordial de trouver un moyen de se détendre. Moi, c'est la méditation. Albert, natation synchronisée. Leïla, bière popper, ce qu'elle boit, tous les deux. Tanguy, proximité physique avec les mammifères de petite taille. Et Patrick, c'est le cul. Voilà. Voilà, il devrait le savoir. Hein. Il devrait le faire savoir plutôt. Ça décomplexerait plein de gens qui n'osent pas y aller, spontanément en tout cas, vers ce genre de loisirs, ou qui bêtement en auraient honte. Salut, c'est Balkany, maire de Levallois. Vous savez, mon quotidien est passionnant. Aller à la rencontre de mes administrés, faire des projets pour la ville, défendre les intérêts de la municipalité, c'est passionnant, mais c'est crevant intellectuellement. Pour me ressourcer, j'ai trouvé la solution. Un bon livre de cul que je lis dans mon bureau, ça détend, c'est joyeux, le message d'espoir est fort, bref, ça me change les idées. Et croyez-moi, ça fait du bien de souffler. Et puis, ça demande plus qu'on vient à le croire, hein, le métier de maire de Levallois. Salut, c'est Balkany, le maire de Levallois. Être maire, c'est du non-stop. Rencontrer les entrepreneurs pour les faire chanter, aller récupérer les enveloppes de cash dans chaque quartier. C'est passionnant, mais c'est crevant intellectuellement. Pour me ressourcer, j'ai trouvé la solution. Avec Isabelle, on se fait un bon petit porno, tranquille à la maison. Ça détend, c'est joyeux, le message est clair, les images sont belles, il y a pas mal d'action. Bref, ça me change les idées. Et croyez-moi, ça fait du bien de souffler. Et quand, comme Patrick, en plus de tes responsabilités, tu as des ennuis, c'est le seul moyen de pas craquer.
Salut, c'est Balkany, le maire de Levallois. Vous le savez, en ce moment, la justice me harcèle. Et qu'apparemment, je devais payer des impôts, et que le racket, c'est illégal, et que c'est choquant que je me balade avec les poches pleines de billets de 500 euros. Tout ça est faux, bien entendu. C'est faux, je sais que je suis dans mon bon droit, que je suis victime d'un complot, mais c'est crevant intellectuellement. Pour me ressourcer, j'ai trouvé la solution. Avec Isabelle, nos voisins et les deux chiens, on se fait une soirée coquine chez Nagui. Ça détend, c'est joyeux, tout le monde vient à poil, on apprend à se connaître à fond. Nagui est un vieil ami qui sait très bien recevoir. Ah, il est parada. Chez lui, c'est alcool et stagiaire à volonté. Bref, ça me change les idées, croyez-moi. Ça fait du bien de souffler.
Ouais, c'est vrai.
Courage Patrick, on est tous derrière toi.
À demain.
Merci à moi. La bande originale avec Nagui.
Andy sort aujourd'hui au cinéma, Alice Allioni et Vincent Elbaz, drôle, touchant, émouvant, et puis ancré dans une réalité, ce film signé Julien Veil. On vous encourage à aller le voir. Tu voulais dire un truc, Daniel?
Non, mais enfin, moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le film, c'est que c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'est des sujets qui sont concernants, qui sont difficiles, comme la précarité, ouais. Puis aussi la grande détresse d'être seul, et c'est abordé.
Ça pourrait être un Dardenne, mais en fait,
c'est sans jamais tomber dans le pathos, et avec toute la finesse des deux comédiens, non, je trouvais ça formidable.
Merci. Non, c'est vrai que la référence, c'était cette comédie à fond social, un peu anglo-saxonne, des années 90, il y avait cette saveur qu'on voulait retrouver dans le film, quoi. Voilà.
Marina Rollman, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça?
J'ai envie d'aller voir Andy, j'ai envie qu'il fasse au moins 26, 25,
27. Merci.
Vu
le budget, de toute façon, il est rentabilisé après 30 entrées, je crois.
Ah, bravo.
Ouais, on a tourné en 25 jours, et puis c'est avec 1 million d'euros.
Un jour par spectateur, c'est bien. C'est bien. Tanguy Passion.
Moi, j'ai retenu que je n'étais pas l'homme que je pensais que j'étais, parce que quand Vincent Elbaz a dit qu'il avait été mordu et griffé, j'ai eu un petit frisson.
Allez, avec vous.
Moi, j'ai trouvé ça un excellent film, une excellente comédie, très drôle et profonde en même temps. Donc,
allez le voir.
Et moi, j'ai eu envie d'adopter ce mouvement libératoire d'Alice Allioni, quoi. La baffe. Mais dans toute sa splendeur, avec vraiment un très très beau mouvement. Vraiment, il faut se poser sur. Regardez ce film, voyez ce film et voyez l'aisance dans ce mouvement, la grâce.
C'est un joli déclencheur.
Et je trouve que voilà, cette forme de violence,
elle a le truc,
par la grâce, je trouve ça génial.
Dans le plaisir.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise en sortant de la salle de cinéma, Alice, après
parce
avoir
que,
vu.
Ce qu'on a un peu vécu hier, il y a eu une avant-première et les gens étaient souriants,
oui,
heureux d'avoir beaucoup ri, mais en même temps touchés.
Joyeux et très émouvant. Quoi. Donc,
vous aussi, Vincent,
oui. Oui, vraiment. Ouais.
Dans vos projets, très rapidement, il y a Noce d'or.
Le vendredi 13 septembre sur Arte.
Arte,
Jamais sans toi, Luna, le 9 septembre sur TF1. Et un peu plus tard, le 25 décembre.
Jean-Paul Rouve.
Et
Elsa Zieberstein, c'est
ça? Et Benjamin Laverne, dans un film d'Arnaud Viard, adapté de Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
Très bien. Et vous, vous êtes en tournage en ce moment de Mystère?
Je suis en tournage, oui. Oui,
aux côtés de Marie Gillin.
Avec Marie Gillin et Eric Elmosnino et une enfant de 8 ans.
Génial. Ça s'appelle Le Mystère, c'est réalisé par Denis Imbert.
C'est réalisé par Denis Imbert, produit par Radar et Gaumont. Et voilà, c'est une belle histoire.
Andy, aujourd'hui au cinéma, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, désolé déjà pour Vincent Elbaz, qui, comme il nous l'a dit, s'est tapé hier soir une cuite monstrueuse et qui ce matin a tenté péniblement de défendre un film qu'il ne connaissait pas. Pas de soucis, Vincent, hein, les usurpateurs alcooliques, on a l'habitude. Leïla.
Ah, ma femme.
Désolé pour mes amis corses qui ont été outrés par ce qu'Alice Taglioni appelle un destin corse pour parler de mort violente. Hein. Évidemment, je ne partage pas cette opinion, même si quand on entend Imouvrini, c'est vrai que... Enfin, bon. Désolé pour les 800 000 personnes qui voulaient aller voir Andy ce matin et qui se sont retrouvées bloquées chez eux en essayant de prendre leur place pour Taratata. Hey, Nagui, si tu pouvais faire un petit geste pour sauver le film, ce serait cool. Allez, fais pas ton salaud.
On va faire ça. Demain, c'est à Clairefontaine que les Bleus nous ont accueillis, donc il y aura Didier Deschamps et les champions du monde de football pour une bande originale exceptionnelle avec les Bleus champions du monde. Merci mille fois Alice.
Merci
Vincent Elbaz. Passez une bonne journée. Tout de suite des carnets de campagne. On a pas. Bonjour.